Bienvenue dans Droit dans l'Immo, un podcast proposé par Lefèvre Dalloz.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Daugé, avocate associée spécialisée en droit de la construction chez LPA Avocat. Bonjour Aurélie.
Bonjour Angeline.
Alors j'ose le dire, Aurélie, que vous êtes presque une habituée des podcasts, puisque c'est la troisième fois que nous nous rencontrons. Une première fois avec un panorama de jurisprudence sur la responsabilité des constructeurs pour l'année 2021 et une seconde fois sur la RE 2020. Pour les auditeurs qui seraient intéressés par ces podcasts, je vous mettrai les liens dans la description. Alors aujourd'hui, on vous propose un bilan de la jurisprudence rendue en matière de droit de la construction par la 3e chambre civile de la Cour de cassation pour l'année 2023 afin d'en tirer pour l'avenir toutes les conséquences qui s'imposent. Alors Aurélie, vous avez choisi de nous présenter cette rétrospective sous forme de 10 questions. Première question, est-ce qu'il y a du nouveau sur la responsabilité civile décennale des constructeurs ?
Alors, il y a du nouveau, oui et non. Non, parce que les grands principes sont rappelés, ça reste intéressant. Et oui, parce que néanmoins, il y a des précisions qui sont apportées, qui elles aussi, évidemment, sont très intéressantes. C'est le cas par exemple pour les vices apparents à la réception. Nous savons, et cela depuis longtemps, que s'ils ne sont pas portés en réserve, ils sont purgés de sorte que toute indemnisation est ensuite impossible. Nous savons aussi que le caractère apparent du vice s'apprécie par rapport à la personne du maître d'ouvrage lui-même et non du technicien qui l'assiste. Et c'est ce principe qui a été rappelé le 1er mars 2023. En revanche, vous voyez, c'est sur ce même thème que quelques mois plus tard, dans un arrêt du 25 mai, il a été précisé, et là c'est vraiment une nouveauté, que peuvent être considérés comme des vices apparents les désordres en germe à la réception, qui étaient prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences. Alors, vous allez probablement me demander ce que c'est qu'un désordre en germe à la réception. Je ne peux pas vous répondre, et c'est maintenant ce qu'il va falloir déterminer, de sorte que nous repartons à nouveau pour quelques années de nouveaux débats jurisprudentiels. Au-delà de cette décision, il y a eu deux arrêts des 30 mars et 13 avril 2023 qui ont rappelé que celui qui n'est pas propriétaire de l'ouvrage affecté de désordre, comme par exemple un preneur à bail, ne peut pas exercer l'action en garantie décennale. Et puis, dans une décision de la fin d'année dernière, la haute juridiction a rappelé un point important sur la dichotomie entre responsabilité légale des constructeurs et l'assurance qui y est attachée. En effet, si le champ de l'assurance obligatoire est circonscrit à la réparation des seuls désordres matériels, la responsabilité légale des constructeurs de l'article 1792 du Code civil, elle, ne se limite pas à cela et s'entend de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres causés à l'ouvrage, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, sans qu'il soit possible de limiter cette responsabilité.
Alors, s'il y a beaucoup de rappels, il y a néanmoins eu une nouveauté sur la notion d'ouvrage qui a été précisée, il me semble.
En effet, vous avez tout à fait raison, la notion d'ouvrage a été précisée à l'occasion de deux décisions. Dans la première, ce sont les contours de l'ordonnance de 2005 qui ont été précisés. L'ordonnance de 2005, c'est celle qui a été traduite à l'article L243-1-1 du Code des assurances et qui écarte de l'obligation d'assurance un certain nombre d'ouvrages qui sont pour l'essentiel des ouvrages de génie civil, par exemple les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, aéroportuaires, héliportuaires, vous voyez des énormes ouvrages, ou encore des parcs de stationnement, des voiries, des ouvrages de stockage et de distribution d'énergie et leurs éléments d'équipement. Donc tout cela sort du champ de l'assurance obligatoire, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ses obligations d'assurance. C'est l'alinéa 2 de l'article que je vous ai cité tout à l'heure. Et c'est sur cette exception-là qu'est revenue la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2023 en précisant qu'un ouvrage non visé à l'article L243-1-1 du Code des assurances reste soumis aux obligations d'assurance, c'est-à-dire aux obligations de responsabilité et de dommages, même s'il est l'accessoire d'un ouvrage qui en est exclu. Alors dans cette espèce, il s'agissait d'un bassin d'orage qui n'est pas visé dans la liste légale et qui était l'accessoire d'un centre de tri et de valorisation des déchets qui, lui, est expressément exclu de cet article. Alors, cette décision est intéressante, mais ça n'est finalement rien d'autre que l'application du principe que l'on connaît tous, selon lequel toute exception s'entend de manière restrictive. Et puis, il y a le second arrêt sur lequel je voudrais insister, qui est relatif à la grande question de savoir ce qu'est un ouvrage, puisque la loi de Spinetta 1978 n'a pas défini cette notion qui est pourtant au centre de son mécanisme. Alors, plus de 40 ans plus tard, nous avons des réponses parce que la jurisprudence est venue pallier cette défaillance. Mais tout cela doit évidemment évoluer en fonction des nouveautés techniques. Et précisément, dans l'arrêt dont je voudrais vous parler, il s'agissait de savoir si des capteurs photovoltaïques installés sur une toiture existante et ne participant pas à l'étanchéité de l'ouvrage, mais destinés uniquement à produire de l'électricité en vue de sa revente, étaient un ouvrage. Eh bien, la haute juridiction a répondu par l'affirmative, il s'agit d'un ouvrage et non d'un élément d'équipement au sens de l'article 1792-7 du Code civil.
Très bien. Alors, les conditions de mobilisation de la responsabilité civile décennale peuvent nous conduire à aborder l'actualité de l'assurance obligatoire qui est attachée.
Tout à fait. L'assurance obligatoire est en effet le pendant de la responsabilité civile décennale. Et il y a ici, dans la jurisprudence de l'année 2023, une volonté de sécurité qui transparaît. C'est le cas dans un arrêt du 11 mai, dans lequel la Cour de cassation a dû se pencher sur le cas d'un entrepreneur qui n'avait pas souscrit la fameuse assurance de responsabilité civile obligatoire. Alors, il s'agit d'une faute pénalement sanctionnée, nous le savons, mais à côté de cette sanction pénale subsiste la sanction civile, pour autant que la victime ait un préjudice. Et c'est là que l'arrêt est intéressant, car la haute juridiction a considéré que la non-souscription d'une assurance obligatoire constitue un préjudice certain pour le maître d'ouvrage, puisqu'il est alors privé de la sécurité procurée par l'assurance en prévision des sinistres, de sorte qu'il doit être indemnisé. Et cela, peu importe qu'il y ait eu ou non un sinistre. Le préjudice est donc totalement décorrélé de l'existence ou non d'un désordre. Nous allons donc très loin dans la sécurité, ce qui n'est finalement pas si étonnant, puisque c'était aussi l'objectif de la loi Spinetta, mais qui mérite d'être souligné.
En effet, donc, si je comprends bien, cette décision peut être vue comme une nouvelle traduction de l'application du principe de précaution devenu omnipotent et même constitutionnel. Et est-ce qu'il y a d'autres traductions de ce principe dans le droit prétorien de cette année ?
Le principe de précaution en effet d'autres traductions pour l'application de la responsabilité des constructeurs au travers d'une notion fondamentale qui est la notion d'impropriété à destination. Depuis le milieu des années 80, nous savons que, par exception, l'impropriété à destination peut être caractérisée en l'absence de désordre. Par exemple, lorsqu'un ouvrage n'est pas conforme aux règles parasismiques, nous n'attendons pas que le séisme survienne pour réparer. Depuis, la jurisprudence a ancré cette dérogation qui a eu des échos dans d'autres domaines, tels que ceux qui ont été jugés à la fin de l'été dernier, puisque le même jour, c'est-à-dire le 14 septembre 2023, la haute juridiction a retenu que constituait une impropriété à destination à la fois un risque d'incendie causé par des infiltrations d'eau affectant une installation photovoltaïque et un risque sanitaire encouru par les occupants d'un immeuble confronté à un risque de développement de légionellose imputable à un défaut de conformité de la tuyauterie. Et là encore, même si aucun cas de cette maladie ne s'était déclaré durant le délai d'épreuve de la garantie décennale. On considère donc dans cette hypothèse, comme on l'a fait dans l'hypothèse de la non-conformité aux règles parasismiques, que le risque est tel qu'il ne faut pas attendre sa survenance pour indemniser. Et cette application ne cesse de se déployer dans d'autres domaines.
Dans quel domaine, par exemple ?
Eh bien, il y a eu également, un peu plus tôt dans l'année, une autre décision qui faisait état de risque, rendue cette fois dans le domaine du trouble anormal de voisinage, qui a été considéré comme constitué en cas de risque de chute d'arbre du fait d'une tempête. Là aussi, le simple risque sécuritaire caractérise l'anormalité d'un trouble.
C'est vrai que cette notion de trouble anormal de voisinage est très importante en droit de la construction. Est-ce que vous voyez des évolutions dans son application et son régime ?
Vous avez raison, c'est une notion importante puisqu'elle fonde tous les recours liés aux nuisances de chantier par exemple, et ces recours sont très nombreux. Or, là encore, cette notion d'anormalité n'est pas définie légalement, et à nouveau, nous avons avancé à tâtons pour identifier au fil des décisions ce qui était normal ou anormal en termes de troubles. Et récemment, l'année dernière, la Cour de cassation a retenu que l'anormalité n'était pas caractérisée du fait de la modification d'un plan local d'urbanisme qui a permis la construction d'un lotissement à l'origine d'un préjudice de perte de vue pour un riverain, dès lors que le droit à la vue n'était pas garanti dans un milieu urbain ou un lieu d'urbanisation. Alors, c'est une décision qui n'est pas neutre hein, pour les maîtres d'ouvrage qui construisent un nouvel ouvrage ou une surélévation qui induit une perte de vue ou d'ensoleillement parce que ce type de recours par les riverains est vraiment très fréquent. Toujours sur le même thème, il y a une autre décision de janvier 2023 qui porte cette fois sur la réparation de ce trouble anormal de voisinage en précisant que la victime du trouble anormal de voisinage, du fait de travaux initiés par l'ancien propriétaire riverain, peut rechercher la responsabilité de celui-ci in solidum avec le nouveau propriétaire. Cela étant, sur le sujet du trouble anormal de voisinage, l'évolution est ailleurs et elle est légale.
Si je vous écoute, ça voudrait dire que le trouble anormal de voisinage va s'inscrire dans le code civil.
Absolument, et c'est la grande nouveauté, peut-être de l'année 2024, puisque le trouble anormal de voisinage a cette caractéristique qu'il s'agit d'un principe de responsabilité de plein droit prétorien, né de l'adage selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Mais sous une impulsion un petit peu singulière parce qu'elle est liée à l'arrivée de néo-ruraux post-Covid dans nos campagnes, une proposition de loi a été déposée qui a pour objectif de créer un nouvel article dans le Code civil, qui serait l'article 1253, pour consacrer ce principe et rapatrier dans le même code son exception qui porte sur la préexistence d'un trouble qui figure dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, la rédaction du texte n'est pas idéale, à mon sens. Pourquoi ? Eh bien, parce que le maître d'ouvrage est expressément cité. Or, avec cette mise en lumière du maître d'ouvrage, on pourrait laisser penser que la réalisation d'un chantier crée intrinsèquement un trouble anormal de voisinage, alors que la jurisprudence est échinée à marteler depuis des années l'inverse, c'est-à-dire que le tissu urbain doit pouvoir se réaliser de sorte qu'un chantier n'est pas intrinsèquement un trouble anormal de voisinage. Il y a donc une vigilance à apporter sur ce qui va se passer cette année au Sénat dans un premier temps et toujours avoir cette vigilance contractuelle pour encadrer ce type de risque.
Alors tout à l'heure, on a parlé de l'assurance de responsabilité civile décennale. Est-ce que l'assurance dommage-ouvrage a elle aussi connu des évolutions en 2023 ?
Alors le régime de l'assurance dommage-ouvrage, il est très balisé à la fois légalement et aussi jurisprudentiellement. Néanmoins, cette année a été l'occasion, encore une fois, de rappel qui reste intéressant, hein, comme celui de l'auteur de la déclaration de sinistre à l'assurance dommage-ouvrage, qui doit être le propriétaire de l'ouvrage. Ça, nous le savons. Mais dans ce cas d'espèce, il s'agissait de savoir si le vendeur en l'état futur d'achèvement, maître d'ouvrage par ailleurs, avait qualité à agir envers l'assurance dommage-ouvrage à compter de la vente ? Eh bien, la réponse est non. Il n'est plus propriétaire, il ne peut pas agir à l'égard de l'assureur dommage-ouvrage. À cet arrêt du 11 janvier 2023 succèdent un certain nombre d'autres, cette fois relatifs au moment de la déclaration de sinistre. Il a été précisé que le fait de déclarer un sinistre à l'assureur dommage-ouvrage quelques jours avant l'expiration du délai de la garantie décennale, ce qui est très très souvent le cas, ne constituait pas une faute, et ceci même si l'assureur dommage-ouvrage perd ses recours subrogatoires, puisque lui ne pourra les faire que postérieurement à l'expiration du délai décennal. Même chose, il a été rappelé qu'il n'est pas possible d'assigner l'assureur dommage-ouvrage avant d'avoir purgé les 60 jours de la procédure légale amiable, sous peine d'irrecevabilité de son action. Et puis il y a un dernier arrêt du 13 avril 2023 qui revient sur le principe bien connu de l'obligation d'affectation de l'indemnité aux travaux réparatoires. Et là, c'est très intéressant. Nous savons que si la victime du dommage est indemnisée et qu'elle ne réalise pas les travaux réparatoires, elle est en tort et doit restituer l'indemnité. La particularité de cette espèce résidait dans le fait que l'action en restitution de l'assureur dommage-ouvrage n'était pas dirigée contre la victime initiale, mais contre l'acquéreur de l'ouvrage qui s'était vu consentir une réduction du prix de vente équivalente à l'indemnité versée au vendeur par l'assureur dommage-ouvrage, vendeur qui avait conservé l'indemnité. Il faut donc bien veiller à affecter l'indemnité d'assurance dommage-ouvrage aux travaux préconisés.
Alors, on ne peut pas faire un panorama en matière de droit de la construction sans parler des difficultés actuelles du secteur dont tout le monde ou presque a entendu parler. Est-ce que vous avez noté une ou plusieurs décisions importantes dans la jurisprudence de l'année dernière ?
Il y en a une que je voudrais aborder avec vous et qu'il faut avoir en tête lorsqu'on est en présence de la combinaison très 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 fréquente sous-traitance et procédure collective. En l'occurrence, dans cette espèce, à la suite du placement en liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant avait formé classiquement une action directe contre le maître d'ouvrage pour être payé du solde de ses travaux. Cette action, elle est encadrée par la loi de 1975, impose que le sous-traitant envoie au maître d'ouvrage, préalablement à toute action judiciaire, la copie de la mise en demeure de payer qu'il a préalablement adressée à l'entrepreneur principal. Et bien, dans son arrêt du 13 juillet 2023, la haute juridiction est venue préciser que lorsque l'entrepreneur principal fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la recevabilité de l'action directe du sous-traitant est conditionnée soit par une mise en demeure de l'entrepreneur principal, mais qui a été faite antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, soit par la déclaration de créance qu'il a régularisée au passif de l'entrepreneur principal.
Est-ce qu'indépendamment des questions de sous-traitance, il y a des décisions intéressantes sur les comptes entre le maître d'ouvrage et ses entreprises?
Oui, il y en a, parce que les sujets financiers sont toujours le nerf de la guerre. Alors, deux décisions du printemps 2023 relatives au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre de marchés à forfait sont à ce titre intéressantes, puisque dans les marchés à forfait, il peut y avoir des travaux supplémentaires qui sont pris en compte pour autant qu'ils aient été expressément demandés par le maître d'ouvrage et acceptés. L'accord du maître d'ouvrage est donc au cœur des débats. Alors, la haute juridiction a rappelé cela dans un arrêt du 8 juin 2023 en indiquant que l'acceptation tacite du décompte général définitif de l'entreprise par le maître d'ouvrage, où figuraient ses travaux supplémentaires, ne valait pas acceptation expresse de ses travaux. Quelques semaines auparavant, un arrêt dans le même sens a été rendu, qui retient cette fois que l'accord express du maître d'ouvrage est caractérisé s'il notifie un décompte général à l'entreprise intégrant le coût de certains travaux supplémentaires qu'il avait précédemment contestés. Enfin, il y a un autre arrêt sur le sujet financier qui est légèrement différent des deux sujets que je viens d'aborder sur les travaux supplémentaires, qui porte cette fois sur une espèce où un maître d'ouvrage n'avait pas contesté le projet de décompte final qui lui avait été notifié par l'entrepreneur dans les délais prévus contractuellement, de sorte qu'il ne pouvait plus, par la suite, lui opposer les pénalités de retard, pas plus que le coût de reprise des désordres. On ne dira donc jamais assez la vigilance à avoir par rapport aux délais couperets qui sont prévus soit contractuellement, soit par la norme AFNOR NFP 03001 qui s'applique au marché de travaux privés, et la nécessité d'être très attentif à ces stipulations contractuelles.
Merci beaucoup Aurélie pour ce tour d'horizon 2023 en matière de droit de la construction. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt, Angeline.